vous écoutez bien Radio Canu sur 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce 29 avril 2013. Alors, 29 avril 2013 qui a fait des ravages dans l'équipe du Canu Info. Mais néanmoins, Robert, quoique enrhumé, lui aussi sera présent. La semaine dernière, c'était mon tour. C'est une vaste conspiration du grand capital ou du lobby socio-démocratique, les solfériniens, comme dirait Mélenchon, pour faire taire les vrais défenseurs des travailleurs dans l'actualité, n'est-ce pas, Robert?
Oui, c'est probable hein, qu'il y a un virus, alors c'est peut-être même la CIA, hein, cette même CIA qui tue les leaders progressistes d'Amérique latine, oui.
Voilà, bon,
mais nous, il ne nous tue pas, il se contente de nous avertir.
Nous intimider. On va ouvrir donc ce Canu Info par une rubrique internationale. Peut-être cette nouvelle qui n'est pas politique comme ça, c'est un fait divers à première vue. Cette catastrophe de Dhaka au Bangladesh, on nous parle, ça parlait de 300 morts, on parle maintenant de 380. Vous allez voir que quand on arrivera au bilan final, on va pas être loin de 1000 si on les dépasse pas. Pourquoi ? Ben c'est les bienfaits du capitalisme et du libéralisme, puisque on peut se promener effectivement avec des t-shirts achetés chez Leclerc ou chez Carouf qui coûtent pas cher et qui sont fabriqués au Bangladesh, puisque même maintenant les Chinois sont trop payés pour faire ce genre de travail. Donc se construisent là des usines dans des vieux bâtiments, dans des états pas possibles. On surélève les bâtiments où ils sont pas adaptés du tout à ça, puisque le bâtiment en question qui s'est écroulé comportait, je crois, 6-7 étages, donc d'ateliers, de gens qui travaillaient là-dedans. Malgré des alertes sur la solidité, des fissures, des choses, on a dit aux gens, mais non, restez là, comme d'ailleurs dans le précédent séisme qui avait eu lieu de cette même catégorie. Et puis le bâtiment s'est écroulé. Alors il y a des blessés aussi en grand nombre. Ça entraîne dans le pays quand même une réaction. Ces gens ont beau être extrêmement démunis, extrêmement mal payés. Il y a eu des émeutes populaires, des gens qui se révoltent contre les conditions de sécurité, en plus des conditions de travail et de salaire qui sont faites à ces prolétaires, ces sous-prolétaires de grand libéralisme international, on l'a dit, qui en France se traduit. On aurait trouvé des étiquettes Carrefour et Leclerc dans les décombres. Maintenant, évidemment, ces grands donneurs d'ordre jurent leur grand Dieu que jamais ils n'ont traité avec cette entreprise-là. Effectivement, c'est sans doute vrai, par le biais des sous-traitances en cascade. Ils peuvent très bien ne pas connaître le fabricant initial de leurs produits, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut leur reprocher. Ça s'appelle la traçabilité. Ça existe pour la viande de cheval ou de bœuf. Ça existe aussi pour les produits textiles. Il suffit d'envoyer des gens pour contrôler l'origine des produits depuis le premier fournisseur jusqu'au fabricant initial. Voilà, tu avais peut-être quelque chose à ajouter là-dessus ?
Non, je crois que tu as bien résumé le développement de ces pays qui sont effectivement des pays où la pauvreté domine et où l'exploitation, elle, domine aussi encore plus largement.
Voilà, autre sujet politique, tu étais parti sur l'Amérique du Sud, on peut peut-être y revenir, hein.
Sur l'Amérique du Sud, on avait constaté la semaine dernière que effectivement par des coups d'État légaux, les droites latino-américaines ou amérindiennes, aidées par la CIA qui doit favoriser financièrement et moins militairement maintenant ces entreprises, Bon, c'est après le Honduras, c'est le Paraguay qui donc c'est on en a parlé la semaine dernière, mais donc qui retourne dans le domaine de la droite dure avec le retour au pouvoir donc du Colorado et ce parti qui a produit des dictateurs comme Stroessner. Et voilà, enfin j'avais pas d'autres informations sinon pour rappeler que la plupart, enfin des pays de cette région, notamment je parle des pays progressistes comme la Bolivie, comme le Venezuela, même le Brésil, qui est également progressiste, mais pas forcément sur la même longueur d'onde que le Venezuela. Eh bien, l'Équateur aussi, ces pays ont des taux de croissance positifs largement, même bon, le Venezuela, c'était du 4, 5, 6%. Et que au-dessus d'eux, eh bien, les États-Unis, eux aussi, sont en croissance largement positive, mais largement, enfin non, ce chiffre 2% à peu près, ce qui amène les Américains à s'inquiéter de l'austérité qui recouvre peu à peu l'Europe, parce qu'effectivement, l'Europe, c'est un bon client, c'est un bon fournisseur, et dans le fonctionnement de l'économie capitalistique, eh bien, finalement... l'austérité commence à être mal perçue. On y viendra à propos de ce qui se passe en Italie ou dans d'autres pays européens, mais les Américains, Obama, au contraire des Bush, qui pour lui, Bush, c'était pas un problème majeur, le maintien d'un certain niveau de développement, et il avait d'autres ambitions. Avec Obama, puisque effectivement un peu la moindre des choses chez les sociaux-démocrates, même si ce sont des sociaux-démocrates, on peut dire que peut-être actuellement ils sont pas forcément plus à droite, enfin au sein de la gauche, que ne l'est Hollande, qui on en reparlera un peu plus loin. fuit tout ce qui pourrait être effectivement des réformes à caractère social et économique qui imprimeraient une marque social-démocrate en France.
Voilà, on va peut-être revenir vers le Moyen-Orient avec pas mal de choses autour de l'Irak, de la Syrie, de quoi encore, ben de la Libye, oui. Alors l'Irak, de nouveaux attentats aujourd'hui à la voiture piégée. Il y en avait deux voitures ont fait 3 morts et une cinquantaine de blessés au sud de Bagdad. Donc une très forte pression menée par les sunnites qui veulent s'en prendre à Al-Maliki, le dirigeant actuel du pays, qui est un chiite, et on sait que les affrontements entre ces communautés sont très forts, donc des sunnites qui réclament le pouvoir, qui réclament plus de force dans le gouvernement. En plus, il y a aussi les Kurdes qui jouent leur partie de leur côté et qui essaient d'exploiter à leur propre profit, de s'autonomiser avec le pétrole à Kirkouk. Bref, une contestation qui augmente contre Al-Maliki, alors qu'il en est à des mesures de rétorsion du genre d'interdire les diffusions de télé, d'un certain nombre de télévisions, une dizaine qui sont plutôt pro-sunnites, souvent... par l'entremise du Qatar, qui s'ingère bien sûr dans la politique du pays. Enfin, tout ça a fait 200 morts en une semaine. Les télés émettent toujours parce qu'elles émettent souvent de l'extérieur de l'Iran. Donc même si leurs activités sont en partie contraintes par les mesures de Al-Maliki, ils arrivent quand même à être vus par la population irakienne avec des programmes sans doute un peu différents, mais pas neutres non plus, ou objectifs pour autant. Voilà, tu voulais ajouter quelque chose sur l'Irak. On a plus de 200 morts en une semaine, quand même. C'est beaucoup pour des
oui,
simples
c'est
attentats.
Le démantèlement de l'Irak comme entité nationale se confirme jour après jour et que, à la fois confessionnel et puis géographique, ce démantèlement. Et on sent bien que c'est un. C'est irréversible.
Voilà, alors un peu plus bas, la Syrie, avec ces histoires de gaz sarin, de nouveau, ça revient, ça tergiverse. Ils auraient utilisé, enfin, les partisans de Bachar el-Assad du gaz sarin, auquel cas, eh bien, ils ne seraient. Les Américains estiment qu'une ligne rouge serait franchie. J'ai des petits problèmes techniques, je ne sais pas s'ils s'entendent à l'antenne. On va essayer d'arranger ça. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire à propos de la Syrie ? Oui, Al-Maliki, non. Oui, le Premier ministre Al-Maliki a été victime d'un attentat à la voiture piégée. Piégée, une voiture télécommandée à l'explosion à distance. Le plus étonnant, c'est pas ça, c'est que ça a eu lieu dans un quartier qui est près du centre de Damas, donc un endroit hyper protégé. Alors l'attentat aurait fait 6 morts, mais le président, le premier ministre en question, un type de 48 ans qui avait été nommé au mois d'août dernier, hein, l'ancien ministre de la Santé, comme premier ministre, serait indemne. Donc tout ça à vérifier, bien sûr, dans les heures qui viennent.
À propos des armes chimiques, la France fait pour l'instant marche arrière. Il y a une déclaration de Laurent Fabius disant que bon, pour l'instant il fallait être prudent, on ne pouvait pas encore affirmer aussi clairement que ça que c'était le pouvoir de Bachar, c'était l'armée de Bachar qui l'utilisait. Et on savait que des factions de rebelles peuvent les utiliser parce que ils avaient pris, en contrôlant je ne sais plus quel site militaire, ils avaient découvert un stock. Alors ce stock, on a dit dans un premier temps qu'il n'était pas exploitable sans une préparation, mais la préparation, ils ont le temps de la faire aussi. Et puis bon, on peut penser que pour l'instant, la position des Syriens a été réaffirmée hier, à savoir que si des armées étrangères intervenaient, mais ouvertement, c'est-à-dire qu'il y a une véritable déclaration de guerre avec présence organisée d'armées étrangères, ils ne rejetaient pas l'idée de les utiliser. C'était la seule condition à laquelle ils disaient qu'ils étaient prêts à en faire usage.
Pour la Syrie, on peut peut-être dire quelques mots de la Libye, puisqu'il se déroule des événements actuellement qui pourraient paraître curieux à distance, à savoir des milliers de miliciens armés qui encerclent le bâtiment des affaires étrangères avec la demande de voir les anciens ambassadeurs du temps de l'ancien dirigeant, donc de les voir recyclés là et demandant qu'ils soient remplacés. Alors ça pose question, bien sûr, parce qu'on pourrait se dire, mais y a-t-il pas dans cet État une police, une armée qui maintenant fait la loi ? Ben en fait, non, parce que ces milices qui se sont constituées chasser le dictateur, eh ben ont continué d'exister et continuent de fonctionner, et se sont un petit peu partagés des territoires, et les dirigent, et les gèrent, ce qui ne va pas, bien entendu, vous pouvez le deviner, sans activités mafieuses et racketteuses diverses. Et le pays, ben, bon an, mal an, continue comme ça, avec un pouvoir central qui essaie de négocier avec tous ces pouvoirs satellites qui continuent d'exister et de se pérenniser, puisque par exemple, il paraît que sur les 60 prisons d'État, il y en a 7 seulement qui sont sous autorité légal, c'est-à-dire qu'ailleurs, ben, il y a comme ça des organisations qui fonctionnent. On est 18 mois après la fin du conflit et on n'a pas l'impression que la situation se soit normalisée.
C'est le cas du fils survivant, enfin, parmi ceux qui étaient restés en Libye, de Kadhafi, le survivant, qui est sous contrôle d'une milice. Et par exemple, le tribunal pénal international demandait qu'il soit transféré à La Haye, et cette milice refuse, alors que le gouvernement central, lui, bon, il n'était pas, hostile à cette demande. C'est tout à fait typique, de là aussi, de l'émiettement, de l'éclatement. Rappelez que la Libye, avant Kadhafi, était un pays coupé en trois, qui fonctionnait tant bien que mal, avec une partie complètement celle où régnait l'ancien souverain, et puis deux autres parties alors, en fonction du pétrole, mais c'était un territoire qui était déjà appelé, dès que le pouvoir central saute, à retrouver, à s'éparpiller. Alors là, l'éparpillement va bien au-delà des trois entités géographiques que constituait la Libye le siècle dernier.
Alors, on parlait un peu du Maghreb. On a deux infos sur le Maghreb. D'une part, Bouteflika, qui est venu nous voir, qui est en France. Il a eu la mauvaise idée de faire un AVG, et sans doute, s'il a confiance dans la politique dans son pays, il n'a pas trop confiance dans la médecine. Du coup, le voilà au Val-de-Grâce, à 76 ans et un an après son élection. On peut vraiment penser que cet homme-là était habilité à prendre sa retraite, vu son état de santé, mais comme beaucoup, dans son cas, il s'accroche au pouvoir, même quand il n'a plus le moyen de l'assumer, puisqu'il ne participe pratiquement à plus aucune réunion. Il semble que ça allait de plus en plus mal. Alors là, bon, on nous fait savoir par communiqué que tout va bien et qu'il n'a jamais été au mieux de sa forme, mais il pourrait bien quand même que cette fois-ci, il n'en se remette pas. À suivre donc.
Bah, il avait su, pour le moins, donner l'impression que ça allait à peu près correctement, puisqu'il y avait deux manifestations spectaculaires au cours des derniers mois. L'une est plus lointaine, c'est lors de la mort de Ben Bella, où il avait organisé des funérailles nationales et où il s'était montré parcourant à pied depuis le palais présidentiel ou depuis l'hôpital où était le corps de Ben Bella jusqu'au cimetière, suivant le cortège à pied, sous la pluie, etc. Et puis la deuxième fois, c'est quand Hollande est allé, alors c'est beaucoup plus proche de nous, quand Hollande est allé en Algérie, et notamment à Alger longtemps, et bien là aussi, il a fait montre d'une présence comme si aucun problème de santé ne le troublait. De temps en temps, on le voyait assis, on l'asseyait peut-être, mais ma foi, après tout, c'est pas forcément interdit de s'asseoir. Voilà. Deuxième événement, tu disais.
Oui, ben, un qui va beaucoup mieux, apparemment, c'est Mohamed VI. Il est plein d'énergie au Maroc et il sait activer les matraques de ses policiers sur les Sahraouis qui manifestaient pacifiquement. Alors, Sahraouis, on sait, ce Sahara occidental, une zone qui était sous obédience espagnole et puis qui est depuis 40 ans maintenant occupée par les Marocains. Alors, il y a eu un moment une velléité d'affrontements militaires il y a une quarantaine d'années, et oui, il faut remonter dans les années 70, et qui a été fortement réprimée. Et puis là, les Sahraouis bénéficient d'une sorte de protection par l'ONU à travers une force, la MINURSO, qui vient d'être conduite par l'ONU. Donc les Sahraouis, eux, maintiennent toujours la pression pour obtenir leur autonomie politique. Ils ont pensé que c'était bien de fêter ou de commémorer un petit peu ce renouvellement de cette affirmation de leur existence politique. Une manifestation pacifique et un certain nombre de blessés par les forces de l'ordre de Mohamed VI, ce grand démocrate ami de la France, tout autant que son père. On le voit toujours à l'œuvre dans ce conflit-là et dans cette appropriation d'une région par son État, dans des positions qui sont tout à fait inadmissibles au droit, eu égard au droit international. Voilà, tu voulais en dire plus sur les Sahraouis. Il faut bien qu'on en parle un peu, parce que pas grand monde en parle. Les pauvres.
C'est vrai.
Voilà, d'autres sujets.
Je crois qu'ils sont, ils sont reconnus comme... Enfin, je ne sais pas quel est leur statut. Enfin, ils n'ont pas de statut, mais quel type de reconnaissance ils bénéficient à l'ONU. Mais je crois qu'il y a quelque chose.
Surtout cette mise en place d'une force armée, la MINURSO, qui limite les exactions dont ils peuvent être victimes de la part du Maroc, mais ça ne leur donne pas ce à quoi ils aspirent depuis 40 ans, c'est-à-dire le droit de créer un État et leur autonomie. Quoi. Le Maroc s'est approprié cette région. Bon, il y a des histoires de phosphates qui sont en jeu, d'intérêt économique, bien entendu. C'est une colonisation comme on en connaît d'autres du côté de la Palestine.
On peut remonter du côté de, au nord de la Méditerranée, peut-être, pour s'interroger sur la nouvelle version modernisée de la Commedia dell'arte, très italienne, avec ce gouvernement extraordinaire où il y a tout le monde dedans. Tous ceux qui ne pouvaient pas se supporter, ils sont, puisque les copains de Berlusconi, ils sont. Les copains des communistes les plus durs, ils sont presque aussi. Les moins durs, ils sont. Les chrétiens démocrates, ils en font partie. Et c'est Enrico Letta, là, c'est un habile opportuniste qui a mangé à tous ces râteliers-là depuis 10 ans. Quand on regarde son parcours politique, alors c'est extraordinaire parce que il a été avec tout le monde, à peu près, en occupant des fonctions plus ou moins importantes, selon que c'était plus du berlusconisme qui était au pouvoir, ou selon que c'était plus du centre-gauche, avec Prodi et l'Olivier, là où il était un peu plus en avant de la présentation gouvernementale. Et puis, dans les élections, à la fois locales, régionales, européennes, il est partout, il a été partout, malgré son jeune âge. Je ne sais pas si à 46 ans, c'est un jeune âge, mais bon.
À côté du président, oui.
Oui, peut-être, oui. Mais alors voilà, alors donc, déclaration tonitruante, disant, à bas l'austérité. Hein. Je crois qu'il aurait presque pu faire de la surenchère avec Mélenchon sur à bas l'austérité. Mais en fait, derrière le discours, en dehors le fait de supprimer des indemnités aux parlementaires, parce que maintenant, c'est le côté moralisateur des gouvernants. Ils croient qu'avec ça, ils recréent leur légitimité. Évidemment, ils se trompent, mais ils y croient et ils le font.
Il vient d'annoncer une mesure ce soir.
Moi, j'ai rien vu.
Il vient d'annoncer une mesure ce soir.
Un grand progressiste.
Il vient d'annoncer une mesure ce soir tout à fait étonnante, c'est-à-dire la suppression à partir du mois de juin, ou du moins l'aménagement qui équivaut presque à une suppression des impôts locaux, quoi. Ce qui est, ce qui manque pas de poser de questions dans un pays qui, avec le déficit dont il bénéficie, que de diminuer ces impôts-là qui devaient rapporter pas mal d'argent. Tu as entendu cette nouvelle ?
Oui, effectivement, oui. Et il recycle dans son gouvernement Madame Bonino, qui a été longtemps à la présidence de l'Union européenne, qui avait fait démarrage tonitruant il y a 20 ans, parce qu'elle était radicale, et le parti radical en Italie, ça avait été quelque chose un peu en partie ce que reprend à son compte le mouvement 5 étoiles. C'était mais beaucoup plus politique que ça, mais très, très dur, et le mot radical n'était pas trop bon. Alors, mais depuis, cette Madame Bonino, elle s'est beaucoup naturellement amendée. Elle est donc recyclée dans son gouvernement. Enfin, je ne sais pas trop si effectivement il veut se substituer à Hollande sur le thème de la croissance, la croissance, la croissance. En le répétant trois fois, ça a sans doute des vertus que Hollande n'a pas su développer, puisque Hollande actuellement, il doit être fatigué et il ne met plus ça en avant. Peut-être d'ailleurs que il veut peut-être faire plaisir à toute cette frange du mouvement écologiste et qui évoque la décroissance. Alors évidemment, ça, la décroissance, de toute façon, vu comme ça, à travers l'austérité, ça, c'est terrible. La décroissance, on peut la faire, ça. Elle se fait toute seule. Elle se fait toute seule. Par contre, la décroissance présentée comme alternative à ce qui se passe, c'est autre chose. Mais pour l'instant, on a plus de vrais porte-parole en Europe. On n'avait plus de vrais porte-parole en Europe du thème du non à l'austérité, oui à la croissance. Alors voilà qu'avec Enrico Letta, l'Europe s'est peut-être trouvé un nouveau leader qui fera sans doute pas mieux que les prédécesseurs.
Et deux petites nouvelles brèves, si on peut dire. Une qui concerne la Russie, donc sur fond de procès des Pussy Riot, le Parlement, le gouvernement serait en train d'inclure dans le code pénal russe un délit d'offense au sentiment des croyants. Eh bien, vous avez le coup d'abattre le communisme pour en arriver là. Et puis à Taïwan, la peine de mort, là, puisqu'il y a eu 6 exécutions par fusillade, condamnées à mort, après que pourtant un organisme qui s'appelle Coalition mondiale contre la peine de mort, qui regroupe pas moins de 144 organisations, ait pourtant rendu visite aux dirigeants du pays pour demander que ces peines ne soient pas exécutées. Donc Taïwan continue d'exécuter ces condamnés à mort par demi-douzaine.
On retiendra aussi que l'anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl a été bien discrètement rappelé dans la plupart des pays, sauf là où les mouvements antinucléaires sont un peu puissants et font un peu d'agitation. Alors, on a bien compris que finalement, pour beaucoup de gens, Tchernobyl maintenant, depuis Fukushima, Tchernobyl, c'est une affaire réglée. Toutes les références sont faites à partir de Fukushima, dont on sait qu'effectivement, la poursuite de l'empoisonnement aussi bien de l'air que du sol n'est pas stoppée. Et donc, Tchernobyl, c'est passé, on dirait, plus qu'un événement de l'histoire.
Oui, pas tant que ça, puisqu'on est en train de construire un nouveau sarcophage de béton, là, sur celui existant, et qu'il a fallu trouver, je crois, 1,5 milliard d'euros, au bas mot, pour cette opération qui est en train de se dérouler, sans compter que le bilan sur le nombre de cancers induits dans la population ukrainienne, et peut-être même aussi un peu française, est absolument catastrophique, quoi.
Oui, mais on fait semblant comme si c'était une affaire maintenant en voie de règlement. C'est d'ailleurs Bouygues, hein, je crois, qui construit cette nouvelle voûte de béton.
Un mot sur les abeilles. Elles sont contentes, les abeilles, ce soir. Elles battent des ailes. Oui, ouais. Pas pour longtemps. Elles ont un petit
répit. Une bonne nouvelle, quand même. Oui,
enfin, une bonne nouvelle, c'est un grand mot. Mais enfin, toujours est-il que l'Union européenne a fini par admettre une interdiction pour 2 ans d'un produit qui est utilisé depuis 17 ans. Ils appellent ça, je crois, des néo-multicoroïdes, qui sont des produits qui sont là pour traiter, bien sûr, l'agriculture et qui entraînent la mort, la disparition, la désorientation, tout ce que vous voulez, des abeilles. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 17 ans, on a pollué les sols, les terrains, la faune, la flore, tout ce qu'on veut, et qu'on se donne seulement un moratoire de 2 ans, et que pour l'obtenir, il a fallu bagarrer dur, et qu'il y a toujours des gens comme les Anglais, pourquoi eux, on se demande, qui sont contre, et les Allemands qui ont beaucoup résisté. Quand on sait que c'est Bayer, le chimiste allemand qui est le grand fournisseur, et qui a annoncé qu'une telle décision allait supprimer une cinquantaine de milliers d'emplois, on se demande bien où il les trouve, on comprend mieux pourquoi le lobby des chimistes industriels n'avait rien à faire de la culture des apiculteurs.
Moi qui mange jamais de miel, ben je vais me mettre à en déguster pour remercier tous ces bienfaiteurs.
Il va falloir que tu attendes 2 ans pour que les effets des produits s'estompent dans le sol.
Il faut attendre 2 ans encore.
Oui, c'est pas parce qu'on arrête aujourd'hui. D'ailleurs, on n'arrête pas aujourd'hui. Il paraît qu'on arrête dans 6 mois parce qu'il y a des stocks à écouler. Ah, ça, c'est fabuleux. Et puis après, il faudra 2 ans pour que les terrains se lessivent un temps soit peu de ces produits chimiques.
Voilà. C'est ça la force de l'arnaque de l'information, notamment l'information audiovisuelle, où les choses sont dites de telle manière qu'on a l'impression que au moment où elles sont dites, elles démarrent.
Ouais,
en fait, il n'en est rien. C'est un trucage de journalistes bien connus.
C'est comme les contrôles fiscaux des paradis fiscaux, ça. Hein. On fait une pause musicale ou tu as encore une info internationale à livrer?
Pour ce qui me concerne, moi, je vois plus rien. Là.
Petite pause musicale, on va la faire sur fond de 1er mai. C'est dans 2 jours, le 1er mai. Vous ne raterez pas la manif ni le repas de quartier de Radio Canu. Mais ce 29 avril, jour pour jour, on commémore aussi 29 avril 45. Savez-vous quoi? Eh bien, c'est la première fois qu'en France, les femmes votaient. C'était pour des élections municipales il y a 68 ans seulement. Allez, petit rappel historique et en musique du 1er mai, des martyrs de Chicago par deux Lyonnais, Jean Astier, Gisèle Tavet.
Quelle est la ville d'Amérique qui, en 1886, à la fin du siècle dernier, vous vous rendez compte, dénombrait 5000 grèves et 340 000 grévistes pour une seule journée?
Chicago.
Quel était le mot d'ordre des grévistes?
Nul ouvrier ne doit travailler plus de 8 heures.
Ce mot d'ordre provoqua des désordres. Pourquoi?
À cause des fuseaux horaires.
Pourquoi?
Ouvriers et patrons n'étant pas sous la même latitude.
Il y eut des scènes sanglantes. Où?
Sur la place au foin.
Combien de morts?
6.
Combien de blessés?
50.
Qui ouvrit le feu?
Le même que partout ailleurs.
Son nom, vite!
Un inconnu.
Oui, monsieur, avec quoi?
Avec une bombe qu'il devait avoir par hasard dans sa poche.
Oui, monsieur, qui fut condamné?
Le même que partout ailleurs. 5 travailleurs, organisateurs du meeting.
Et l'histoire les appela les martyrs de Chicago.
En mai 1886, dans les usines de Chicago, la grève éclate de partout, éclate aussi la trahison et les mouchards et les prisons. Et la police chez McCormick vous tombe à pic sur le dos. Mais c'est là que ça commence, ce 1er mai, et ce 2 mai, et ce 3 mai. et tous ces jours de la semaine, et ce 4 mai, et tous les jours de l'existence, et ce 4 mai de Chicago, et ces 4 bombes dans la foule, ces 6 morts et 5 pendus, tous militants comme par hasard, tous une tête à faire s'étrangler, un chanvre de pure justice, blanche justice et noir travail, comme on était déjà raciste en 1886.
Voilà, le blues de 1886, donc par Gisèle Tavet, c'est une composition, paroles et musique de Jean Astier, des vieux Lyonnais sans doute décédés aujourd'hui. Et, mais nous sommes toujours là, dans ce Canu Info du 29 avril 2013, pour vous parler de la rubrique nationale. On va faire dans le social, hein, ça s'impose, Robert. Alors, PSA,
oui,
Aulnay, Sochaux, partout.
Oui, oui, voilà, c'est on dégage. Hein. C'était l'expression qu'on avait utilisée pour dégager Sarkozy, mais côté Hollande, ça dégage aussi. Hein. Ça dégage beaucoup de salariés un peu partout. Et Hollande, d'ailleurs, il fait le forcing parce qu'il a plus que 4 jours... non, à peu près, un peu plus quand même. On est le 29, hein, 29, ouais, disons, il a, oui, ben oui, d'ici dimanche, il a 6 jours avant de passer sur l'échafaud. Hein. Donc il a intérêt à justifier son année de présidence de la République, parce que dimanche 5 mai, alors là, c'est la révolution qui commence avec le démarrage de la 6e République, de l'installation d'une nouvelle, d'une constituante, la mise en place d'une constituante, et donc forcément, on écarte Hollande. Alors ça, c'est le rêve farfelu qu'on pourrait faire comme ça. Mais finalement, ça serait bien mérité concernant François Hollande, qui aujourd'hui, eh bien, montre que il n'a pas vraiment le souci de s'occuper de l'emploi au sens où il prétend vouloir le faire. Aujourd'hui même, il avait réuni 300 personnes. Alors, on va pas dire que c'était le MEDEF, mais c'est quand même des patrons ou des gens qui dirigent des entreprises ou qui sont délégués par leur entreprise. Bon, c'était un grand raout, on va dire, de défense, d'illustration d'une offensive capitalistique, puisque c'était les patrons qui étaient conviés. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit simplement, ben voilà, on va accélérer la mainmise du patronat sur les lycées, et notamment les lycées professionnels, mais pas que, et toute la filière de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on va créer des nouvelles structures pour que ça soit mieux adapté à vos besoins, et c'est vous donc qui formulerez finalement le contenu de ces besoins. D'ailleurs, on est surpris que Payon n'était pas là. Payon lui fait autre chose, mais visiblement, Payon, c'est pas du tout la tasse de thé le matin de François Hollande. Alors, côté des salariés, effectivement, les choses se précisent, hélas, dans le mauvais sens. On rappellera que, par exemple, Gouillir, et l'État n'a rien dit, Montebourg n'a rien dit, Goodyear refuse de céder son entreprise d'Amiens au syndicat, mais plus généralement pour monter une coopérative ouvrière de production. Afralib dans le sud, à Gennemos, ça n'avance pas, la coopérative est toujours dans l'attente d'une réalisation. La semaine dernière, on avait donc vu la finalisation de la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Fleuranges. Et tout le monde sait que cette fermeture, on appelait ça une mise en sommeil. Mais les sidérurgistes eux-mêmes ne se font pas d'illusions. Les mises en sommeil sur des outils de production comme ça, ça équivaut à des mises à mort. Peu de jours auparavant, on avait compris que Montebourg, malgré ses effets de manche, bien n'avait trouvé personne pour reprendre Petro Plus. On est dans le raffinage. Et que finalement, là aussi, le gouvernement n'avançait aucun projet dans lequel il s'engageait et qui aurait répondu à la demande, aux promesses de Hollande. Aujourd'hui, alors, c'est la finalisation de la fermeture de PSA, Peugeot Citroën, à Aulnay et à Rennes, à côté de Rennes, avec effectivement un saupoudrage. Alors on va faire des plans sociaux en pagaille. On va faire des plans de pré-retraite, on va faire des plans de formation, on va faire naturellement laisser partir volontairement les gens, et puis on proposera des mutations, des reclassements. Et ceux qui refuseront, eh bien ceux-là, c'est la porte, ils seront licenciés. Bon voilà. Alors bon, c'est un plan de liquidation. Alors ce qui est le plus désolant, c'est que ce plan de liquidation qui a été aujourd'hui entériné par le comité central d'entreprise a vu tous les syndicats l'approuver, sauf la CGT. Et je pense que Sud également ne l'a pas approuvé, il n'est pas mentionné dans la dépêche que j'ai lue, mais il est ni du côté de ceux qui l'ont approuvé, ni du côté de ceux qui l'auraient désapprouvé. Mais je ne sais pas, peut-être que Sud, j'ai pas fait la recherche, peut-être que Sud solidaire n'est pas très implanté à PSA, mais bon. Et ce qui est nouveau, enfin, le problème, c'est que FO a voté le plan. Alors voilà que la belle unité FO-CGT qui s'était créée dans la bataille contre l'accord national interprofessionnel, eh bien, à travers ce qui vient de se passer chez PSA, eh bien, ça devient presque caduque. Donc tout ceci, ça va faire un 1er mai, naturellement, dispersé, c'est-à-dire un 1er mai qui n'apportera aucune avancée sur des objectifs sociaux pour ce gouvernement dit de gauche.
Dernier point. Si tu voulais parler de Sochaux, non, parce que je voulais.
Oui, je voulais dire un mot de l'autre gros producteur d'automobiles, c'est-à-dire Renault. Alors Renault, ce sont ses usines, hein, c'est pas... Non, à Sochaux, j'avais rien sur Sochaux.
Je le donne maintenant. Eh bien, il est question de fermer une ligne de nuit qui fonctionnait depuis 850 intérimaires. En tout, il y a 1200 personnes sur cette ligne. Les 400 autres, on va les répartir dans les lignes de jour, si on peut dire. Alors cette ligne de nuit avait été créée en octobre 2009 pour les 3008 et les 5008. Ceux qui connaissent les bagnoles s'y retrouveront. Et puis aujourd'hui, on arrête. Alors 800 intérimaires, ça veut dire bien entendu des gens, c'est pas des intérimaires qui venaient à la semaine, ça c'est des intérimaires qui sont là à l'année, quoi. Ça veut donc dire 850 familles dans le chômage et dans la misère, sans compter tous les externes qui bossent autour pour alimenter les sous-traitants dans la région de Montbéliard qui alimentent ces chaînes. Donc c'est en tout, bien sûr, dans les 1500 personnes qui vont se retrouver à pointer à Pôle emploi, quoi. Et la CGT fait savoir que C'est tout à fait scandaleux parce que normalement, à partir d'octobre prochain, normalement, la mise en place d'un nouveau véhicule, système I, à partir de début 14 même, ça devrait réengendrer la réouverture de la chaîne de nuit. Donc ils pensent qu'il y aurait dû avoir moyen de répartir autrement ces salariés sans les virer, mais évidemment c'est des intérimaires, donc ils sont corvéables et expulsables à merci. Pendant ce temps-là, silence radio du côté de Moscovici, le député du Doubs et de Montbéliard est occupé ailleurs, bien entendu. Oui, Renaud, donc.
Oui, Renaud, on se souvient, Carlos Ghosn a instauré avec la CFDT et puis un autre de syndicats la compétitivité. Qui inclut d'ailleurs la flexibilité. Il n'avait même pas attendu que la loi sur la NI soit définitivement votée, elle le sera après le 14 mai. La compétitivité chez Renault, c'est une affaire qui marche. Mais en fait, elle ne marche pas si bien que ça, parce que ça déstructure, ça déstabilise tellement les travailleurs, surtout ceux qui sont dans les équipes des 3-8, par exemple, que la semaine dernière, pas plus tard que lundi, donc il y a une semaine, un ouvrier chez Renault depuis plus de 10 ans, à l'usine de Cléon, eh bien, s'est pendu sur son lieu de travail, aux heures de son travail. Il avait 35 ans, deux enfants, deux filles, une femme naturellement, une compagne, et il a laissé des lettres où il met en accusation Carlos Ghosn, le patron de Renault, en lui disant que c'était plus supportable la vie chez Renault et que bon, pour lui il était au bout du rouleau. Et dans la lettre il dit, ben voilà, il fait semblant, bon il le tutoie, il fait comme s'il le connaissait. Il dit Carlos, hein, c'est le prénom de Ghosn, le patron de Renault. Carlos, eh bien la compétitivité, tu expliqueras à mes filles ce que ça représente pour leur avenir. Et c'est une phrase, enfin, effectivement, que la presse a repris partout. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver le lendemain, le surlendemain plutôt, grande annonce, tambourinée dans les médias avec des grands cris d'enthousiasme. Renault va construire en 2016, hein, c'est pas maintenant, hein, donc il va se passer des choses d'ici là. Dans 3 ans, a reçu la commande de la construction de 70 000 Micra, la petite voiture, là, à l'usine de Flins, d'ailleurs. C'est pas prévu pour Cléon, c'est prévu pour Flins. De quoi, effectivement, dit Carlos Ghosn, de quoi, sans doute, la nécessité d'embaucher du monde et donc de prouver que son plan de compétitivité, c'était le bon plan. Mais ce qui est scandaleux, c'est la manière dont, effectivement, excite le type qui s'est suicidé, les nombreux cas de suicide chez Renault ailleurs, mais qui sont liés à cette mise en place de la compétitivité. Et à propos de la compétitivité, comme si ça ne suffisait pas, cette semaine, le Parti Socialiste, au sein de la Commission au Parlement, a refusé de prendre en compte, ne serait-ce que prendre en compte, une discussion sur le fameux sujet qui est une promesse aussi de Hollande, à savoir pas de licenciement boursier et pas de licenciement. Et alors, le Front de Gauche avait présenté une proposition de loi, disant en 3 points, c'est possible, on peut envisager le licenciement que dans 3 cas, la cessation d'activité, faire la preuve que les difficultés économiques, et pas simplement en jonglant avec les unités de production, que les difficultés économiques étaient insurmontables. Et 3e point, que les mutations technologiques entraînait forcément une modification du processus de production et donc la nécessité de licenciement. Et bien même ce petit truc, c'était pas la révolution que demandait le Front de Gauche, et bien c'est refusé par les socialistes qui prévoient au gouvernement de débattre de cette question au mois de juin. C'est-à-dire d'ailleurs tous les plans sociaux seront liquidés dans le mauvais sens du terme d'ici là, et on peut attendre. Enfin, on ne peut pas attendre grand-chose, semble-t-il. C'est ce que pensent la plupart des gens qui, effectivement, se battent autour de ce thème, de cette loi qui, pour l'instant, apparaît vraiment à la veille des vacances. Apparaîtra peut-être à la veille des vacances.
Alors, un mot de Gaudière aussi, puisqu'on est dans le social. Donc, on sait qu'il y a un conflit là qui dure depuis un moment avec l'actionnaire qui veut fermer l'usine. Alors, les travailleurs ont monté un projet de SCOP en recentrant l'activité sur les pneus agricoles, pour les tracteurs, en gros. Eh bien, en l'espace de 2 jours, la direction, qui en 2 jours n'a même pas eu le temps d'examiner le plan et sa viabilité de près, l'a renvoyé balader, quoi. Refus de la direction. On a vraiment l'impression, déjà une SCOP, ça leur plaît pas, parce que c'est pas assez capitaliste, bien sûr. C'est pas un repreneur comme eux. Et puis surtout, j'ai l'impression que ce qu'ils voient, c'est que si cette SCOP se met en place et marche, ça va leur faire un concurrent pour les pneus qu'ils font produire dans des pays à bas coût, COUTS, et que ça, ben, ils préfèrent liquider l'usine, les travailleurs et les foutre à Pôle emploi en France que de risquer d'avoir un petit concurrent sur le marché national. Voilà, d'autres, un peu de l'armée aussi, l'armée qui licencie, ça c'est toujours agréable. Eh bien, il faut croire qu'il y en avait encore 24 000 qui servaient à rien, puisqu'on va en supprimer 24 000. Et il est même prévu, paraît-il, d'ici 2015, d'en supprimer encore 9 000. C'est pas nous qui nous élèverons contre de telles réductions. L'armée, c'est quand même 31 milliards d'euros en affectés directs, parce que je pense que si on comptait les affectations indirectes, ce serait bien supérieur, dont 3 milliards pour le nucléaire, au sujet duquel un certain nombre de gens, dont Paul Quillès, ancien ministre socialiste de la Défense, commence à se poser des questions en disant « ça ne sert à rien, on ne voit pas ce qu'on ferait du nucléaire aujourd'hui, il y avait eu une opération qui était déjà discutable, mais dans le cadre de l'existence des blocs russes et américains, et aujourd'hui qu'il n'y a plus de blocs, contre qui va-t-on envoyer notre nucléaire ? Contre les Syriens ? Contre la Libye ? Non, sûrement pas. Donc, supprimons le nucléaire, nous économiserons 3 milliards par an. Mais ça, il n'en est pas question pour le moment.
Et ça donnerait une voix internationale, une voix morale plus forte à la France pour justement essayer de convaincre les pays qui veulent s'armer nucléairement de le faire.
Voilà un petit mot de la SNCF qui a trouvé la solution pour remédier à l'engorgement de ces trains de banlieue en particulier. Eh bien, ça ne lui coûte rien. Elle suggère tout simplement aux travailleurs et aux entreprises de décaler leurs horaires de travail. Allez-y, 2 heures avant, 2 heures plus tard. Et comme ça, ben, il y aura moins de monde en même temps dans les trains. Fastoche, hein. C'est pas eux qui vont se taper les levées à 3 heures du mat avec les gosses à mettre je ne sais pas où jusqu'à l'heure de l'école et autres. Mais on a trouvé une solution. La SNCF a des idées. Puis on va peut-être dire un mot de politique et du débat qu'agite le PS. Alors Mélenchon, ben, on a pu le voir à la télé jeudi dernier, tirer sur tout ce qui bougeait. Je pense qu'il, par moment, il en fait beaucoup et je ne suis pas sûr qu'il se rende service à ce point-là, quoi. Il entame un peu sa crédibilité d'être aussi vertement agressif, tout azimut, on va dire. Mais enfin, il ne disait pas que des choses fausses, bien entendu, loin de là, quoi. Et ça a des répercussions jusqu'au PS, puisque même Bartolone s'est mis un petit peu sur des positions, pas identiques, mais en annonçant qu'il convenait maintenant de se confronter à Merkel. Merkel qui n'est pas seulement l'Allemagne, mais qui est surtout la candidate de la droite en Allemagne, comme son copain Sarkozy était le candidat de la droite d'exploitation en France. Et donc il y a maintenant au sein du PS un certain nombre de gens qui pensent qu'il ne faut pas tout accepter des conditions que l'Allemagne nous fait pour servir sa propre économie, ses propres intérêts aux dépens des autres pays européens, puisqu'elle vend à ceux-ci, et plus elle leur vend, et plus elle gagne, et plus elle accumule, et elle entend bien que ça continue. Face à ça, y a un certain nombre de gens qui ont levé les bras au ciel. Copé Fillon, pour l'occasion, ils se sont réconciliés. C'était facile, hein, on dit du mal du copain de leur ancien mentor. Mais même UPS, Valls, Moscovici ont dit que tenir des propos comme ça était tout à fait irresponsable et que ça pouvait nous conduire à on ne sait pas trop quel désastre. Enfin, il y a de l'affolement dans l'air un peu.
Oui, il se verrait bien Premier ministre, je crois.
Qui donc ?
Valls ? Bartholome, oui.
Bartholome ? Je ne sais pas s'il représente une tendance au sein du gouvernement qui permettrait d'avoir ce poste, et puis surtout si Pépère, Hollande voudrait de lui, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être sur les mêmes bases. Hein. Hollande est beaucoup plus sinueux dans cette affaire.
Non, il fait ça, c'est simplement pour bloquer un peu l'offensive de la gauche du PS. Oui.
Voilà, as-tu d'autres infos ? Quand on aura dit que le chômage a battu un record, tu parles d'un record, donc moi je dis qu'avec, c'est parce qu'il faut bien compter dans les chômeurs, les RMistes qui sont devenus des RSAistes, on est à 6 millions de gens qui n'ont pas d'emploi normal actuellement, sur 28 millions d'actifs, ça fait beaucoup, c'est pas la peine de se gargariser de la Grèce ou de l'Espagne, on n'est pas si loin que ça si on regarde les choses avec lucidité. Il y a les manifs, dont il faut dire un mot. Donc, il y a celle du 5, mais c'est seulement à Paris que le Front de Gauche organise sa grande manif. Hein. Donc, il y a des gens qui vont en train, en car, c'est un petit peu structuré. Alors, autrement, il y a celle du 1er mai, il y en aura un peu partout. Celle de Lyon partira de Jean Jaurès à 10h30, à l'appel de Sud, CGT, CFDT et autres, et aboutira à Bellecour. Les plus valeureux continueront jusqu'à la place Satonnet où Radio Canu leur offrira le penche et ils pourront casse-croûter après en discutant des perspectives sociales à venir.
Oui, d'ailleurs, Lyon reste un peu toujours le cas qui est exemplaire où CGT et CFDT, depuis des années, marchent ensemble le 1er mai. C'est comme ça.
Voilà, pour se mettre dans l'ambiance, on va terminer ce Canu Info en écoutant le Chiffon Rouge. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Un spectacle, il n'y en a pas beaucoup. C'est les vacances scolaires, ça se sent dans la vie quotidienne. Les ancêtres d'Anton, c'est au Carré 30, jeudi, vendredi, samedi. Puis un truc assez particulier, les 6 et 7 mai, le 6 mai à 14h pour les scolaires, 7 mai pour le public, à Charlie Chaplin. Brandybar, c'est un opéra mémoire pour enfants qui a été écrit et joué par des déportés à l'époque de Hans Krasa. Et c'est entrée libre sur réservation. Il faut téléphoner au 04 78 69 51 40. Vous pouvez regarder sur internet pour en savoir plus. Brandybar, B-R-U-N-D-I-B-A-R, c'est à Charlie Chaplin à Vaux-en-Velin. Voilà, le Festival Brassens pour les inconditionnels, s'il y en a encore, continue jusqu'au 5 mai à Vaison-la-Romaine avec plein de choses qui sont de moins en moins Brassens et de plus en plus autre chose. Mais il faut bien arriver à remplir les cases. Allez, bonne soirée, ne quittez pas l'antenne, vous aurez droit à une émission exceptionnelle ce soir. Ce Canu Info sera diffusé demain matin à 8h. Bonsoir.